Monsieur Dallaire, bonjour. Je vous laisse la parole immédiatement.
Merci. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir et de venir donner ma première conférence dans le cadre du salon Psy, du livre Psy, et sur un sujet sur lequel je travaille depuis déjà plus d'un quart de siècle. Mes cheveux blancs en témoignent. Le couple. Et mon objectif, comme la majorité des thérapeutes de couple, on essaie d'harmoniser les relations hommes-femmes. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Quand je reçois un couple en thérapie, je les reçois généralement pour 3 heures. Je passe 1 heure avec l'un, 1 heure avec l'autre et 1 heure avec le couple. Dans les 2 premières heures, je vérifie avec l'un et l'autre la bonne foi, la bonne volonté. Et je vérifie aussi s'il y a encore un lien amoureux. Et généralement, c'est pas ça qui manque. De l'amour et de la bonne foi dans les couples, il y en a. Mais vous savez comme moi, actuellement, le couple va très mal. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sur différentes sociétés, 60, dont la vôtre et la mienne, un couple sur 2 divorce actuellement. 30% des couples s'endurent pendant des décennies et à peine 20% des couples sont la plupart du temps heureux. Okay? C'est pas beaucoup. C'est un taux de réussite qui est plutôt faible. Bon, c'est sûr qu'on pourrait se poser la question, est-ce que le couple doit nécessairement durer toujours? Est-ce que l'amour rime nécessairement avec toujours? Ou est-ce que parce qu'on vit de plus en plus vieux, on pourrait peut-être se permettre plusieurs belles histoires d'amour de 20 ans? Ou de 25 ans, c'est une option qu'on peut prendre. Aujourd'hui, je dis souvent, on vit assez vieux pour divorcer et se remarier ou retomber en amour. Un jour, tout le monde connaît Aristote. Un jeune homme vint voir Aristote. Si Aristote vivait aujourd'hui, probablement qu'une jeune fille pourrait aller le voir aussi, là. Mais un jour, un jeune homme vint voir Aristote et lui demanda, « Aristote, vous qui êtes si sage, est-ce que vous croyez que je devrais me marier ou rester célibataire? » Et Aristote, après quelques moments de réflexion, lui dit, « De toute façon, vous allez le regretter. » Ce qu'il faut comprendre dans la réponse d'Aristote, c'est le contre-pied. C'est-à-dire que vous soyez célibataire ou que vous soyez marié, profitez-en. Et une des recettes des couples heureux, c'est justement ça. Les couples heureux sont généralement formés de 2 célibataires heureux, de 2 célibataires qui ont appris à être bien avec eux-mêmes, qui ont apprivoisé leur solitude, qui se connaissent bien, qui connaissent bien leurs besoins, leur façon de faire, et qui vont aller chercher quelqu'un qui est aussi autonome. Donc, ces couples-là, au lieu de tomber en amour, je crois que vous dites ici plutôt tomber amoureux, nous on dit tomber en amour, to fall in love, on pourrait, ces couples-là, à ce moment-là, s'élèvent en amour. Alors au lieu d'aller chercher quelqu'un qui va venir remplir mon vide intérieur, j'ai accepté d'avoir un vide intérieur, et la fonction du vide étant évidemment d'être rempli, je n'irai pas chercher quelqu'un qui va avec l'illusion que je peux entretenir, que cette personne-là va combler tout mon vide, je vais plutôt aller chercher quelqu'une qui va m'aider à m'enrichir dans ma relation. Les couples malheureux, normalement, vous le savez, s'il y a des thérapeutes ici, là, les couples malheureux vont accuser l'autre d'être responsable de leur malheur. Hein? Si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais. Hein? Ou encore, on accuse la mauvaise foi. Là, on accuse l'amour ou on accuse la mauvaise foi. Ça fait 20 fois que je te le dis. On dirait que tu fais exprès pour ne pas comprendre. Okay? Alors, l'amour puis la bonne foi, ce n'est pas ce qui manque. Mais évidemment, quand un couple vient en thérapie, ils ne viennent pas au départ voir un thérapeute. Ils viennent voir un juge. Lequel juge, on lui demande, dites-lui, monsieur, que c'est elle qui est dans les torts. Et elle fait la même chose. C'est lui qui ne veut rien savoir, qui ne veut pas changer, etc., etc. Et je me rends compte qu'en tant que thérapeute, avant même de commencer la thérapie, il faut très souvent que je fasse plutôt un travail de traduction. Traduire en masculin ce que madame dit et traduire en féminin ce que madame dit. Je totalise 32 ans personnellement de vie de couple et plus de 25 ans de thérapie conjugale, donc je crois avoir un petit peu appris le monde féminin. Mais c'est sûr que parce que je suis un homme, il y a une limite à ce que je peux connaître du monde féminin. Je ne peux pas le connaître de l'intérieur. Hein? Il n'y a qu'une femme qui peut vraiment savoir qu'est-ce que c'est que d'être une femme. Il n'y a que le semblable qui peut reconnaître le semblable. Mais à force d'entendre les autres, l'autre sexe, nous dire des choses alors qu'il n'y a pas de charge émotive, hein, c'est sûr qu'on est beaucoup plus à l'écoute et que je peux arriver à traduire à monsieur ce que madame est en train de dire et vice-versa. Donc, dans le mode d'emploi du couple, la première étape, c'est d'apprendre à être heureux par soi-même, pour soi-même, et d'aller chercher quelqu'un qui va devenir une espèce de complice pour pouvoir cheminer, pour pouvoir, si je vous définis qu'est-ce que moi j'entends par amour, je présente ça sous forme d'un triangle. Pour moi, dans l'amour avec un grand A, il y a évidemment une attirance physique et sexuelle, hein? C'est à la base, mais ce n'est pas suffisant pour former un couple. Il y a ce que j'appelle et ce que je réunis sous le terme de admiration, qui est l'aspect plutôt, ici c'est plus physique, ici c'est plus la dimension psycho-émotive, dans ce corps-là que je vois, qui a-t-il? Et là, la personne qui est dans ce corps-là que je peux trouver agréable, là, il faut évidemment que je trouve admirable la personne que je découvre dans le corps que je rencontre. Et la troisième dimension, c'est un couple, c'est fait pour réaliser des projets. Un couple, là, c'est deux personnes qui ont le même rêve, qui ont le même objectif. Donc, être heureux seul. J'ai évidemment des besoins dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Il y a le couple qui est là pour répondre à au moins une vingtaine de besoins humains. Et on est deux pour essayer de s'entraider à les satisfaire. L'autre condition sine qua non pour avoir un mode d'emploi qui va fonctionner, c'est de connaître aussi les étapes de l'évolution d'un couple. Hein? Tout le monde, on voudrait que la première phase dure toujours. La passion, la lune de miel, la séduction. Tout le monde, on voudrait que ça dure. Parce qu'on flotte à ce moment-là. Mais ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas en amour avec la personne qui est en face de nous. On est en amour avec un fantasme. On est en amour avec ce que j'imagine de la personne qui est en face de moi, qui se présente sous son plus beau jour. Et moi, je fais la même chose. Je suis en amour avec les sensations que la phényléthylamine et autres hormones sécrétées par le cerveau vont me faire vivre en tant que plaisir sensuel, sexuel. Et là, je fantasme sur différentes choses. Et je voudrais toujours être là. Mais vous le savez, soit par expérience personnelle ou professionnel, que la passion finit par passer. Que dans la passion existe le germe de la destruction du désir. Et que il faut savoir, pour être heureux en couple, que le couple, justement, contrairement à ce que nos grands-parents disaient, que 1 plus 1 fait 1, que 1 plus 1 fait 3. Vous avez un homme, beaucoup de testostérone et autre chose du même genre. Vous avez une femme, de la progestérone, qui amène des conséquences, des comportements, des façons de voir la vie différentes. Et l'union de ces deux-là fait un nous. 1 plus 1 égale 3. Moi, toi et nous. Et dans ce nous-là, il y a un paradoxe. Le paradoxe de la passion. Au début, dans la première phase, ce qu'on veut, c'est fusionner. Et c'est très agréable. Et tout le monde, on voudrait rester là. Mais au même titre que quand je mange, je finis par ne plus avoir faim. Quand je fusionne, je finis par ne plus avoir le goût de fusionner. Et là, le besoin paradoxal revient, c'est-à-dire la recherche de l'autonomie. pour désirer, je désire ce que je n'ai pas, pas ce que je possède. Ce que je possède et ce que j'ai, je ne le désire plus, je l'ai. Donc, il y a, dans le « nous », il y a un mouvement paradoxal entre une force fusionnelle et une force d'opposition. Je t'aime, je nous aime, mais j'existe aussi en dehors de toi, en dehors de nous. Et j'ai droit aussi à ma vie privée, okay, qui est à l'opposé de nous. Là. Okay. Dans tout couple existe ce paradoxe-là. Et seulement les couples qui réussissent à gérer le paradoxe, à utiliser le paradoxe, vont survivre à la deuxième étape de l'évolution du couple, qui est la lutte pour le pouvoir. Et fondamentalement, même si notre ami Jung a dit que là où il y a de l'amour, il n'y a pas de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, il n'y a pas d'amour, à mon avis, c'est faux. Dans toute relation amoureuse, il y a une lutte pour le pouvoir, ne serait-ce qu'entre le désir de fusion de l'un et le désir de l'autonomie de l'autre. Il n'y aurait aucun problème si les deux personnes avaient le même désir de fusion. Okay? On fusionne, on se satisfait, on a mangé tous les deux la même quantité de nourriture, on n'a plus faim, on se sépare, on laisse au désir le temps de revenir et on fusionne à nouveau. Ce serait parfait. Mais dans la réalité, il y a un des deux partenaires qui a un besoin de fusion beaucoup plus grand ou plus grand que l'autre qui a un désir d'autonomie plus grand. Et là, ça crée une lutte pour le pouvoir. C'est-à-dire que moi, au moment où je voudrais fusionner, toi qui n'as plus faim de fusion, qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'éloigner. Si tu t'éloignes, à ce moment-là, moi, mon angoisse ou ma peur de ne plus être capable de satisfaire mon désir de fusion augmente. Et à ce moment-là, je te poursuis. Mais plus je te poursuis, toi, tu n'as plus le goût, là. Tu n'as plus de désir, donc tu veux t'éloigner pour permettre au désir de revenir. Donc, plus je te poursuis, plus tu me fuis. Mais plus je te fuis, plus je provoque chez toi une peur, une augmentation de ton désir qui fait que plus je te fuis, plus tu me poursuis. C'est permanent. Et dans les couples heureux, cette lutte-là, elle est égale. Dans les couples malheureux, bien évidemment, on se retrouve avec un dépendant émotif et un contre-dépendant, qu'on appelle souvent le dominant. Okay? Les deux sont aussi malheureux. C'est pas plus agréable d'être dans cette position-là que dans cette position-là. Donc, deuxième étape, apprendre à gérer la lutte pour le pouvoir. 80% des couples n'y parviennent pas. 50% divorcent, se remarient après un certain temps de deuil, et augmentent de 10% leur probabilité d'une deuxième séparation. Les statistiques sont à ce niveau-là. Excusez. Oups. Il va finir par arrêter. Excusez. C'est peut-être ma blonde là, qui m'appelle du Québec. Quand est-ce que tu arrives? Demain soir. Alors, à peine 20% des couples réussissent à arriver à la troisième étape de l'évolution d'un couple, qui est le partage du pouvoir, ou du moins l'alternance du pouvoir. Et Jacques Salomé, qui est un de vos concitoyens, montre bien comment est-ce qu'on pourrait alterner le pouvoir. Par exemple, les jours pairs, c'est papa qui s'occupe des enfants. Les jours impairs, c'est maman qui est le boss et qui s'occupe des enfants. Et papa se met au service de maman pour éduquer les enfants comme elle le veut. Et inversement. On ne peut pas arriver à un partage du pouvoir équilibré. C'est impossible. La vie n'est pas dans la stagnation. La vie, c'est le mouvement. Mais il faut apprendre à gérer ce pouvoir-là de façon à l'alterner. Et que chacun des deux membres du couple trouve dans le « nous », la source de la satisfaction de ses besoins personnels, qui, vous le savez, entre un homme et une femme, la hiérarchie des besoins n'est pas dans le même ordre. Dans la lutte pour le pouvoir, moi, dire à toi comment « nous » devrait fonctionner. Toi, t'opposer à moi et de dire « non, nous devrait fonctionner autrement ». Alors que dans les couples heureux, une partie de moi, que j'appelle le PP, le petit psychologue, le petit psy, une partie de moi s'élève au-dessus de moi, regarde comment moi je fonctionne, comment elle fonctionne et comment nous pourrions satisfaire les besoins de l'un et de l'autre. Okay? Et toi, tu fais la même chose. Tu t'élèves ici et ici, on est des complices. On est complices ici. Ici, on est deux ennemis intimes. Ici, on est deux amants intimes. Et dans les couples heureux, on ne croit pas que ou on est amant ou on est ennemi. On sait très bien que je t'aime et je te déteste. Je t'aime et je t'en veux. Qu'il y a une ambivalence de sentiments. Même titre que je suis une bonne mère et une mauvaise mère. Je suis un bon père et, un mauvais père, du point de vue de l'enfant. Quand ma partenaire fait ce que je veux, je l'aime. Et quand elle s'oppose à moi, il peut y avoir des conflits. Or, les couples heureux apprennent, un troisième élément, très important, les couples heureux arrêtent de s'illusionner sur deux aspects. Et les deux aspects commencent par un C. Et jusqu'à tout récemment, la majorité des thérapies conjugales était basée sur ces deux C-là. Et on se rend compte aujourd'hui que ce sont les thérapies les moins efficaces dans le domaine de la conjugalité. Dans le domaine individuel, c'est possible. Mais au niveau de la conjugalité, c'est excessivement difficile pour une raison très simple que je vais vous expliquer. Le premier C, c'est l'illusion de la toute-puissance de la communication. Si on se parle, on va se comprendre, et plus on va se comprendre, plus on va s'aimer. Puis plus on va fusionner, puis plus on va être intime. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin très longtemps pour vous rendre compte que des fois, malgré notre amour et notre bonne foi, quand on communique, ça se termine mal. Okay? Je ne veux pas dire ici qu'il faut cesser de communiquer. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut arrêter de s'illusionner sur la toute-puissance de la communication. Et arrêter de croire que le mot « communication » veut dire « communion » ou « compréhension ». Le mot « communication » vient d'un mot latin qui veut dire « troc », « échange ». Je te donne de l'information contre un échange d'informations. Mais, et vous savez, dans la communication, il y a deux aspects, non-verbal et verbal. La dimension non-verbale, c'est 55%. La dimension verbale, c'est 45%. Et dans la dimension verbale, on subdivise sur l'intonation avec laquelle je dis mes mots et le sens des mots. L'intonation constituant 38%. Donc, la communication verbale, ce qu'on se dit, n'est que 7%. Et en plus, quand un homme dit à une femme « je t'aime », qu'est-ce qu'il dit vraiment? Est-ce que la femme entend? Alors, si ce que la femme entend, c'est exactement ce que l'homme dit, pourquoi? Et je suis convaincu que toutes les femmes ici ont déjà certainement dit ça un jour, ont certainement dit ça un jour ou l'autre. Parce que l'homme qui entend sa femme qui dit « oui, moi aussi, chérie, je t'aime », et qui s'approche d'elle et qui commence à la caresser, va dire « oh, est-ce que c'est moi que tu aimes ou juste mon corps? » Voyez-vous là, les pièges de la communication? Mais c'est plus grave que ça. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. Une très, très mauvaise nouvelle. Mais que les couples heureux, eux, ont saisi et qui ont réussi à gérer cette mauvaise nouvelle-là, c'est que pourquoi est-ce que les thérapies conjugales basées sur la communication et la résolution de conflits par la communication sont de toutes les thérapies les moins efficaces? Tout simplement parce que la majorité des conflits de couple sont des conflits insolubles. La majorité des conflits de couple, on parle de 69-70%, plus des deux tiers, des conflits de couple sont insolubles. Ce que font les couples malheureux, ils recherchent le consensus. Ils cherchent à régler des problèmes insolubles. Exemple. Dans un couple, par rapport à l'argent, qui est une des deux principales sources de conflits des couples, il y en a toujours un qui intérieurement, se sent en sécurité par rapport à l'argent. Donc, il sait que votre Société Générale est remplie d'argent. Vous êtes à côté de la Suisse, qui est, les banques sont remplies d'argent. Mes cartes de crédit dans mes poches, on profite de l'argent pour vivre du mieux possible. Maintenant, il n'y aurait pas de problème si l'autre avait la même attitude par rapport à l'argent. Mais en général, dans un couple, l'autre, il est plus insécure par rapport à l'argent. Toujours peur d'en manquer, même s'il est millionnaire. Hein? Il est insécure. Est-ce qu'on m'aime pour moi ou on m'aime pour mon argent? Ou encore, il faut mettre de l'argent de côté, on ne sait jamais. Il peut y arriver une catastrophe en tout temps. Fait que là, moi qui suis insécure, plus je vais chercher à convaincre mon partenaire qu'il faut se sécuriser pour l'avenir, plus moi je vais dire, ben non, regarde, qui te dit que demain on ne sera pas mort? Qui te dit qu'on va pouvoir profiter de notre retraite? Pourquoi ne pas en profiter maintenant? Insoluble. Le problème, c'est que faut faire un budget. Puisqu'on est en couple, le « nous » doit apprendre à gérer l'argent. Et moi, j'ai une attitude X, puis toi, tu as une attitude Y par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de « nous » Je n'ai malheureusement pas le temps, j'ai à peine une demi-heure pour vous dire le mode d'emploi du couple, mais il y a des stratégies qu'on peut utiliser qui fait que même si on n'est pas d'accord, on peut vivre harmonieusement avec l'argent. Autre exemple de conflit insoluble, la deuxième source de conflit, l'éducation des enfants. Il y a toujours dans un couple l'un des deux qui est plus permissif, alors que l'autre est en général plus disciplinaire. Okay? Alors on fait quoi? T'es trop rigide. C'est juste un enfant, laisse-le vivre un petit peu. Ben non, tu es en train d'en faire une moumoune. Tu es en train d'en faire. Il faut qu'il apprenne à vivre en société. Hein? On va s'obstiner à partir de notre attitude différente par rapport, notre conception différente par rapport à l'éducation de nos enfants. Sans parler de notre propre éducation de nos enfants et tout l'héritage qu'on a pu recevoir qui vient que. Hein? Dans ce sens-là, on en parlait tout à l'heure, dans ce sens-là, souvent on va chercher un conjoint qui. Nous espérons, va nous aider à régler tous nos problèmes du passé. Mais malheureusement, la réalité, c'est que notre conjoint devient notre principale source de problèmes. Donc, il faut sortir de ces deux illusions-là. L'illusion de la toute-puissance de la communication et de la possibilité de régler des conflits qui, pour la majorité, sont insolubles. Il y a des conflits dans des couples qui sont solubles. La majorité sont insolubles. Et les 6 sources de conflits insolubles, c'est argent, enfant, belle-maman, belle-famille, la répartition des tâches ménagères, les femmes sous-estiment ce que les hommes font dans et autour de la maison, alors que les hommes surestiment ce qu'ils font, la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, et évidemment, le sexe. La moyenne statistique, c'est qu'un homme veut 3 relations sexuelles par semaine et madame veut 1 relation sexuelle par semaine, elle est satisfaite. C'est pas toujours comme ça, c'est une moyenne. Là. Il y a des femmes qui veulent beaucoup plus que certains hommes. Là. Okay? Et biologiquement, les femmes n'avaient pas de limite au niveau de votre capacité génitale. Nous, les hommes, oui. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on rencontre? C'est 3-1. Est-ce que vous pensez qu'un compromis à 2, ça fonctionne? Les compromis ne fonctionnent pas dans un couple. Et quand on embarque dans un couple, ce que je veux, moi, c'est le maximum. Je peux investir le maximum et j'attends que l'autre investisse le maximum. Et les couples heureux ne font pas de compromis. Les couples heureux sont composés de 2 personnes exigeantes. Hein? Ça ne marche pas, les compromis. Donc, autre élément, je vous dirais, une fois qu'on sait tout ça, là, il y a peut-être 5, il y en a plusieurs, là, mais je vous donne 5 secrets pour arriver à être heureux à long terme dans un couple. Parce qu'il y a deux catégories de couples heureux. Il y a les couples heureux pendant la lune de miel et il y a les couples heureux une fois qu'ils ont pu utiliser la lutte pour le pouvoir pour apprendre à mieux se connaître et arriver au partage du pouvoir. Ces couples-là sont heureux à long terme. Mais ce ne sont pas des couples sans conflit. Sauf que les conflits leur permettent chacun de pouvoir mieux se connaître tout en gardant l'admiration, la confiance, le respect réciproque. Alors que dans les couples malheureux qui finissent par non pas se confronter, mais s'affronter, à ce moment-là, le fossé s'élargit à chaque moment difficile de la vie d'un couple. Et vous le savez, on a tous des moments difficiles dans la vie d'un couple. Inévitable. Donc, il faut apprendre à faire face, auquel il faut apprendre à faire face. Cinq des secrets, j'en ai retenu cinq, là. On se rend compte que les couples heureux à long terme sont formés de deux amis intimes. Que les couples heureux considèrent leur partenaire comme un invité dans leur vie. Et regardez qu'est-ce que vous faites avec un invité lorsqu'il vient chez vous. Vous y faites attention. Vous vous préoccupez de lui. Vous rendez-vous compte que, surtout dans les couples malheureux, on va dire à la personne qui est supposément la plus importante, la plus proche, la plus intime, on va dire à cette personne-là des choses qu'on ne dirait jamais à un ami. À ce moment-là, quand on commence à dire des choses comme ça, l'admiration baisse. Je ne sais pas si vous connaissez la petite blague associée avec l'admiration. Au début de l'évolution d'un couple, dans la phase de lune de miel, on utilise souvent le nom de petits animaux de la ferme pour se dire qu'on s'aime. Mon petit canard, mon petit lapin, ma petite souris, etc., etc. Quand l'admiration baisse, les animaux ont tendance à grossir. Et c'est là où le bas blesse. Parce que c'est surprenant de voir comment des gens qui arrivent à vivre de la violence verbale et ou physique continuent de se désirer et continuent de vouloir rester ensemble, même s'il n'y a plus d'admiration. Et c'est ça qui est souvent là où le bas blesse. Deuxième secret, c'est que les couples heureux ont ce que j'appelle un compte d'épargne émotif. Un compte en Suisse, là, un compte d'épargne émotif qui s'accumule par, à chaque fois que je dis mon amour, mon trésor, ma petite souris, okay? Chaque fois que je dis un mot tendre, ça fait 1 euro, 2 euros, 3 euros dans mon compte d'épargne émotif. Okay? Pour accumuler ce compte d'épargne émotif-là, il faut développer ce que j'appelle la carte du tendre. C'est John Mooney qui parlait de ça, la carte du tendre. Okay? Connaître des choses intimes de la personne, de mon conjoint, et en tenir compte. Les petits caprices, les petits... Full de petites choses. Okay? Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Et en tenir compte. Donc, j'accumule un compte d'épargne émotif qui fait que lorsque le couple heureux qui a un bon compte d'épargne se dispute, parce que les couples heureux se disputent aussi, ces couples-là ne dépensent que l'intérêt de leur compte d'épargne. Alors que les couples malheureux, qu'est-ce qu'ils disent après une dispute? Veux-tu, on va tout effacer et on va recommencer à zéro. Ce qui est impossible. Monsieur me dit qu'il me reste à peine 15 minutes et je voulais vous laisser la parole un peu. Troisième secret, les couples heureux se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Et on ne cherche pas à établir un consensus. Sinon, ben, on se retrouve dans les couples, dans les stratégies destructrices dont les couples malheureux sont champions, qui sont qui a raison, qui a tort, qui a commencé. Si tu m'aimais vraiment, tu le fais exprès. Les couples malheureux ont des stratégies comme ça. Ils sont champions là-dedans. Quatrième secret, développer des techniques de désamorçage. Les couples heureux ont des stratégies pour désamorcer au lieu d'escalader. Au lieu de faire ce que j'appelle, dans une expression longue comme ça, la schismogenèse complémentaire. Hein? Que tous les deux, on génère un schisme qui fait que, dans schismogenèse complémentaire, le mot à retenir, c'est complémentaire. L'escalade. Exemple. Qui est pour moi un exemple classique. J'appelle ma blonde pour lui dire que je vais être une demi-heure en retard. Finalement, j'arrive avec une heure et quart de retard. Hein? Et là, vous pouvez comprendre que ma blonde puisse être en colère. T'es encore en retard. Hein? Oui, mais moi, j'ai une bonne raison d'être en retard. J'ai une urgence, un client qui est arrivé à la dernière minute, là, puis il voulait aller se suicider, il fallait bien que je le sauve. Hein? Puis quand je suis parti, ben là, j'ai été pris dans la circulation, un trafic épouvantable. Oui, mais tu aurais pu m'appeler sur ton GSM. Oui, j'ai bien pensé, mais la batterie tape là. Hein? Elle est en colère et elle m'accuse d'être responsable de sa colère. Et moi, devant sa colère, qu'est-ce que je fais? Je me défends. Stratégie classique des couples malheureux. Comment qu'on peut désamorcer ça? Premièrement, prendre conscience que je suis responsable de mon retard. Je ne suis en aucun temps responsable de sa colère. Elle a le droit d'être en colère. Mais si je comprends bien ça, là, la blonde est en colère parce que je suis en retard. Hé, mais c'est fantastique! Youpi! Si je comprends bien, mon amour, tu avais hâte que j'arrive. Donc, au Québec, on appelle ça du GBS, du gros bon sens. Elle est en colère parce que je n'étais pas là. Elle m'exprime sa frustration, elle m'exprime son émotion, mais moi, je ne réagis pas à son émotion. Je connecte à son besoin. Si je comprends bien, mon amour, tu avais hâte que j'arrive. Moi aussi. Et je m'excuse pour mon retard. On va passer une belle soirée. Mais dans l'autre cas, on va se retrouver dans le lit, dos à dos, les poings fermés, le corps tout... OK? On va faire semblant de dormir. C'est ce que font les couples malheureux. Et dernier secret, les couples heureux capitalisent sur ce qui va bien. Et les couples heureux se rappellent régulièrement des souvenirs agréables. Et c'est fantastique de voir jusqu'à quel point les couples heureux réécrivent leur histoire en l'améliorant à chaque fois. Alors que les couples malheureux, c'est l'inverse. Exemple, après avoir reçu l'un et l'autre et avoir vu leur bonne foi et leur bonne leur amour réciproque et leur désir de continuer ensemble, dans la troisième heure, en l'espace de quelques minutes seulement, une dizaine de minutes, je peux prédire si ce couple-là va pouvoir bénéficier de mes services ou pas. Si je dois les envoyer chez le médiateur. Et je vous donne un exemple. Très souvent, dans les premières minutes, je vois la tension qui monte, et alors je m'adresse à madame, pas à monsieur. Si j'avais plus de temps, je vous expliquerai pourquoi. Je m'adresse à madame pour lui demander, « Madame, qu'est-ce qui fait que vous êtes tombée en amour avec cet homme-là? » Justement, je me pose la question. Alors, médiation. Fait que là, c'est rajouté. Mais quand le couple, là, je vois la femme qui, parce que les femmes ont une labilité émotionnelle que les hommes n'ont pas en général, je vois la femme qui change son expression faciale et qui se rappelle les beaux souvenirs et qui dit comment était son mari, son fiancé à ce moment-là. Alors là, je sais qu'il y a moyen d'aller plus loin en thérapie. Remarquez que s'il réagit comme ça, je sais qu'il faut mettre des choses très au point dès le départ pour avoir une thérapie qui va être efficace. En conclusion, et là je vous laisse la parole si vous avez des questions. En conclusion, dans un couple, on a toujours le choix. Chaque membre du couple a toujours le choix entre être heureux ou avoir raison. Vous avez des réactions, des commentaires, des questions? Comment ça se passe avec les brunes? Au Québec, toutes les femmes sont blondes. C'est dans le style « Auprès de ma blonde ». Ok, une vieille chanson française de la Lorraine, je pense. Et tous les hommes sont des chums. Ça s'écrit C-H-U-M, mais ça se prononce comme s'il y avait un T au début, un chum. Au lieu de dire « ma femme hein, »,« mon mari ». On va plutôt dire mon partenaire, ou mon complice, ou ma blonde, mon chum. Même si elle est rousse. Autre réaction, commentaire, question?
S'il vous plaît, dans vos trois critères, là, sexe, admiration et rêve, vous les notez comment en premier, le 1, le 2, le 3?
Pas nécessairement. Les histoires d'amour peuvent débuter de différentes façons. Et, bon, je ne peux pas le faire ici parce que c'est un plan fixe, là, mais la base peut être le sexe, ou la base peut être l'admiration, ou la base peut être le travail. Deux collègues de travail qui sont ensemble, qui travaillent ensemble et qui, au départ, n'ont aucune attirance physique ou sexuelle, peuvent, à la longue, développer une attirance sexuelle. Okay? On peut avoir des amis, hein, l'admiration. Nos amis, on les admire. On peut avoir une relation d'admiration au départ. Fait que le sexe n'est pas toujours la base. L'admiration peut aussi être la base, mais là, il faut imaginer. Ou le travail, ou le projet. On a combien de collègues de travail, d'ailleurs, 50% des infidélités ont lieu avec un collègue de travail, hein? Particulièrement au mois de décembre, à l'occasion des 5 à 7. La collègue d'un. Il y a une collègue de travail qui me regarde avec des yeux admiratifs et qui est toujours d'accord avec ma façon de voir les choses, alors qu'à la maison, ma blonde, elle me graffine, elle me gratigne. À ce moment-là, la base peut être l'une ou l'autre de ces trois dimensions-là. Autre question?
Je voulais savoir si ça pouvait être suffisant dans un couple, si un des deux seulement est décidé à être heureux plutôt qu'avoir raison.
Oui. Oui. Et l'exemple que j'utilise pour vous faire comprendre ça, c'est que... Habla espagnol? No habla espagnol? OK. Moi, je parle français, espagnol. L'espagnol avec qui je peux communiquer, je peux très bien m'entendre avec lui, même si lui n'apprend pas l'espagnol, le français. Okay? Je peux très rapidement apprendre, par exemple, que dans la langue espagnole, mañana ne veut pas dire demain, mais veut dire pas maintenant, plus tard, dans la mentalité espagnole. Dans le dictionnaire, c'est demain. Mais quand on connaît, en tout cas, nous, les Espagnols de Mexique et Amérique centrale, là, quand un Espagnol me dit mañana, bon, ça veut dire que je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir continuer notre conversation ou quand est-ce qu'on va se revoir. Mais dans ma tête de français, j'entends demain. C'est sûr que si l'espagnol apprend aussi le français, on va pouvoir aller plus en profondeur dans les nuances de notre relation. Mais il n'est pas nécessaire que l'espagnol apprenne le français pour que je puisse communiquer et être heureux avec lui. Même chose dans un couple. C'est pour ça que mes ateliers qui s'adressent au couple, ou mes thérapies qui s'adressent au couple, s'adressent autant à des couples qui viennent. Il y a des ateliers sur le couple, c'est-à-dire pas qui s'adressent, mais qui sont sur le couple. Je reçois autant des gens qui sont en couple dans l'atelier que des gens célibataires qui veulent que leur prochaine relation amoureuse fonctionne mieux, ou un des deux membres du couple. Parce que si moi je change ma façon à moi de réagir devant la colère de mon partenaire en répondant à son besoin, tranquillement, je vais modifier le scénario conjugal et, qu'elle le veuille ou pas, elle va finir par changer. Et j'aurais été à l'origine de ça. C'est pour ça que, une autre façon de voir le mode d'emploi du couple, moi, je me considère responsable à 100% de mon couple. Pas à 50% comme les couples malheureux, 50-50, donnant-donnant. Ça ne marche pas les formules donnant-donnant. Si tu changes, je vais changer. Si tu me donnes ça, je vais te donner ça. Ça ne marche pas. Je suis responsable de mon couple à 100%. La partie que je mets ici, comme elle est responsable de son couple à 100% de ce qu'elle met là-dedans, la façon dont elle va agir, réagir à la façon dont elle va émettre les choses, la façon dont elle va interpréter ce que moi je mets. Elle est responsable à 100% de ça. Je ne suis pas responsable de sa colère. Je suis responsable de mon retard à 100%. Ça donne que c'est le même couple, c'est le même lieu d'habitation, ce sont les mêmes enfants, c'est le même budget. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut apprendre à... Les couples qui sont composés de deux membres qui prennent la responsabilité, et pour moi, il n'y a pas de thérapie conjugale sans prise de responsabilité à 100% de ce que je suis dans le couple, ces couples-là, finalement, investissent du 200%, alors que les couples malheureux investissent 50-50. C'est pour ça que 80% des couples ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas à long terme, une fois la lune de miel passée. C'est du 100%. Dans les couples malheureux, qu'est-ce qui se passe? On vit le même couple, hein? On pense qu'on vit le même couple, mais dans les couples où il y a un dépendant émotif et un contre-dépendant, ben, le dépendant, lui, il vit son couple comme ceci. Il a l'impression qu'il n'y a pas de couple. Et le contre-dépendant émotif, lui, il est envahi par le couple. Fait qu'il veut prendre de la distance. Mais l'autre, s'il prend de la distance, il va en avoir encore moins. Et j'utilise cette approche-là après avoir expliqué à mes clients comment ça se passe. 1 plus 1 égale 3. Je leur demande de dessiner comment ils sentent leur couple. Et j'ai souvent ce genre de dessin-là. Le dominant ou le contre-dépendant, ou le dépendant ou le dominé, il n'est pas dominé. Et il faut sortir du paradigme d'un couple où il y a un dominant et un dominé. Il y a deux acteurs dans un couple, responsables à 100% de leur rôle, de leur manuscrit, de leur scénario. Et dans un couple, il ne peut y avoir, sauf exception, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont psychopathes ou sociopathes ou vraiment manipulateurs, mais dans la majorité des couples, il y a ou deux gagnants ou deux perdants. On ne peut pas avoir un gagnant et un perdant. C'est pour ça qu'il faut sortir de « j'ai raison, tu as tort ». Parce que si j'ai raison, tu as tort, tu vas me faire payer. Vous avez Thomas Dansbourg, un concitoyen du nord de votre pays, là, qui a écrit un livre merveilleux. Cessez d'être gentil, soyez vrai. L'idéal, c'est d'être vrai gentil. Mais si je suis gentil, moi qui avais le goût de rester vendredi soir à la maison, mais pour te faire plaisir, je vais aller au restaurant avec toi parce que toi, tu avais le goût de voir du monde, ben, je vais te le faire payer ma sortie. Compte sur moi. Il est bien lent, ce service-là. Il y a beaucoup de boucan ici, fumé. Okay? C'est pas bon. J'ai été gentil, mais je vais te le faire payer. Dans les couples malheureux, c'est ce qu'on fait. Une question, hein? Vous me dites quand c'est terminé, non? Oui, il y a une autre question? Écoutez, ce que je viens de vous dire, c'est le contenu de mon prochain livre. On me demande souvent, c'est lequel votre dernier livre? C'est mon dernier livre, il est encore ici. Ce que je viens de vous dire, c'est le contenu de mon prochain livre, qui, j'espère, va sortir pour l'automne prochain. Mais en attendant, il y a deux livres que j'ai écrits. Un s'adresse aux femmes, l'autre s'adresse aux hommes. Comme le principal reproche que les femmes font aux hommes, c'est « mon chum ne parle pas », j'ai écrit à l'intention des dames « chérie, parle-moi », 10 règles pour faire parler un homme des choses importantes de la vie. Ce que vous imaginez qui est important. OK? Et l'autre livre qui s'adresse aux hommes, « homme est fier de l'être » parce que lui m'a pris 6 ans à écrire de recherche, celui-là m'a pris un mois. Mais ça faisait 20 ans que j'enseignais à mes clients, parce que, vous voyez, dans les deux heures, là, quand c'est la femme que je reçois en premier, elle me dit « mon chum ne parle pas ». Dans la deuxième heure, moi, je demande à monsieur « comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Et il me parle pendant une heure, sans arrêt. Et elle me dit « je ne sais pas comment vous allez faire pour le faire parler ». Alors, parce que dans le monde des hommes, je connais bien le monde des hommes, au niveau de la communication, et on a des règles très simples qui font que si une femme demande « chérie, parle-moi », je suis convaincu que les Français aussi répondent la même chose que les Québécois. « Qu'est-ce que tu veux savoir? De quoi veux-tu qu'on se parle? » qui est la première réponse. Donc, la première règle, ne pas poser une question générale, mais poser une question précise. Et la deuxième réaction des hommes à « chérie, parle-moi », c'est « qu'est-ce que j'ai encore fait de travail? » Dans « Homme est fier de l'aide », j'ai un chapitre qui, le 11e, qui s'appelle « Vivre heureux avec une femme ». La lecture de ce chapitre est interdite aux femmes. Ça ne s'adresse qu'aux hommes. Si vous achetez le livre, vous lisez les autres, mais pas le chapitre 11. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre écoute attentive. Je vais être pour quelques instants au stand à côté pour vous recevoir et faire des dédicaces si vous le voulez. Merci.